Coucou, c'est Matt. Vous écoutez Cœur d'enfant, le podcast où ma maman Morgane et moi nous partageons notre passion pour la lecture avec les enfants et leurs parents. À vos livres. Prêts ?
Lisez !
Le très chaud été est derrière nous. Nous sommes bel et bien installés dans l'automne. Personnellement, j'aime chaque saison. Et en automne, j'adore marcher dans la nature, surtout en forêt, regarder la pluie tomber et lire des histoires réconfortantes.
Bon, pour l'été, passons un peu, elle aime pas trop ça.
Moi, j'aime sauter dans les flaques, ramasser des feuilles et boire du chocolat chaud en rentrant de balade.
Aujourd'hui, nous allons vous parler de deux livres à lire dès 5 ans, tous deux des mêmes auteurs et de la même illustratrice, à savoir Myriam Daman, Nicolas Digard et Julia Sarda, et paru chez Gallimard Jeunesse.
Le premier, le talisman du loup. C'est l'histoire d'un loup qui observe chaque jour une jeune femme et qui adore l'écouter chanter. Mais un jour, elle ne chante plus. Suivant les instructions d'un enchanteur, le loup part à la recherche d'un objet qui l'aidera à entendre à nouveau le chant de la jeune femme.
C'est une très belle histoire d'amitié qui se tisse au fil de la confiance et du partage. On y aborde le sujet du deuil, du lien entre un humain et un animal, sauvage qui plus est, ainsi que le secret. Il est normal d'avoir des secrets, mais trouver quelqu'un en qui on a suffisamment confiance pour le partager, c'est important.
C'est encore une histoire où le loup n'est pas forcément méchant. C'est juste un animal impressionnant qui a besoin de chasser d'autres animaux pour vivre. Mais il a aussi des émotions et de la sensibilité. La jeune femme n'a pas peur du loup. Au contraire, elle voit plus loin que les apparences.
Matt va vous lire un extrait qui va vous donner une idée de la poésie de ce livre.
Chaque matin, la jeune femme traversait la clairière et marchait jusqu'à un puits niché dans la forêt. Elle emplissait son seau en chantant. Sa voix était plus fraîche que l'eau qui jaillit de la terre, plus pure que la lumière des étoiles. Et chaque matin, le loup avançait jusqu'à l'orée de la forêt pour l'écouter. Durant ces instants, le temps semblait s'arrêter et un rayon de soleil éclairait son cœur.
Chaque mot est choisi comme dans une poésie. Ajoutez à ce texte les illustrations tout aussi poétiques et je vous mets au défi de ne pas aimer cet ouvrage. 2 ans plus tard, le trio a créé Léna et le Seigneur des Amanites. Au fil de ma lecture, j'ai pensé à 2 contes classiques, La Belle et la Bête au début, puis Barbe Bleue ensuite. Je vous laisse découvrir la fin de cette histoire pour savoir duquel de ces 2 classiques elle se rapproche le plus.
Léna vit près d'une forêt réputée, hantée, car de nombreuses personnes n'en sont jamais revenues. Je vous lis un passage. Léna possédait la seule barque de la ville et connaissait la rivière mieux que personne. Mais malgré toute son assurance sur l'eau, elle n'osait pas parler à ses passagers. Et parmi eux, il y avait un jeune homme avec lequel Léna se sentait particulièrement timide. Et un après-midi, Oren ne revint pas de la forêt. Léna guetta longtemps son retour, en vain.
Une nuit, un étrange passager prend place dans la barque pour quitter la forêt et se rendre en ville. Il se désigne comme le seigneur des Amanites. Mais ce crapaud n'est pas bien reçu du tout par les habitants et seule Léna semble être prête à lui rendre service. Pour la remercier, il l'invite à partager un somptueux dîner, puis à rester chez lui à l'abri de l'orage et de la pluie. Laissée seule, Léna va visiter le palais du crapaud. Mais résistera-t-elle à ouvrir la porte de la seule pièce qui lui est interdite ? Quel secret cache cette dernière ?
Ce deuxième livre parle lui aussi de la nature et d'amitié avec du mystère et du courage en plus.
Aux belles couleurs d'automne, ces 2 ouvrages nous offrent de jolis contes qui mériteraient leur place au milieu des grands classiques. Les illustrations sont superbes, très détaillées et les couvertures sont de vrais objets de décoration. Alors, glissez-vous sous un plaid, un thé ou un chocolat dans une main et ses pépites sur les genoux.
Lecture d'extrait du Talisman du Loup par Myriam Daman et Nicolas Digard, illustré par Julia Sarda. Loin, très loin dans le nord, s'étendait une forêt sombre et oubliée. De vieux pins enchevêtrés protégeaient ses mystères. Au-dessus de leur cime se dressait une montagne, et de leurs branches enlacées montait un murmure sans fin. Dans cette forêt vivait un loup. Sa fourrure était noire comme l'écorce après la pluie, ses yeux dorés comme la lune. C'était le plus grand loup que la terre ait jamais porté, et tous les animaux de la forêt le craignaient. Mais ce loup avait un secret. Dans une clairière au milieu de la forêt, là où le soleil s'attardait sur les fougères et où le sol était parsemé de fleurs sauvages, se dressait une cabane en bois. Dans cette cabane vivait une jeune femme. Sa chevelure était noire comme la forêt et sauvage comme les hautes herbes. Au fond de ses yeux d'ambre, le loup devinait une tendresse qui l'émouvait profondément. Chaque matin, la jeune femme traversait la clairière et marchait jusqu'à un puits niché dans la forêt. Elle emplissait son seau en chantant. Sa voix était plus fraîche que l'eau qui jaillit de la terre, plus pure que la lumière des étoiles. Et chaque matin, le loup avançait jusqu'à l'orée de la forêt pour l'écouter. Durant ces instants, le temps semblait s'arrêter et un rayon de soleil éclairait son cœur. Quand son seau était plein, la jeune femme retournait à la cabane où son père malade était alité. Elle lui tenait la main et chantait à nouveau. Sa voix était douce comme le parfum des fleurs, chaude comme une brise d'été. Alors, le loup quittait la clairière pour chasser dans la forêt. Mais un matin, la jeune femme ne vint pas au puits. Le loup attendit longtemps, en vain. Rampant parmi les ombres, il s'approcha de la cabane et vit la jeune fille pleurer. Le lit de son père était vide. Son cœur de chasseur s'emplit de tristesse. Les jours passèrent, mais il n'y avait plus ni chant ni musique dans la vie du loup. Il languissait d'entendre la jeune femme chanter à nouveau. Plus que tout, il rêvait de pouvoir lui parler. Il continua à chasser, une ombre dans un monde muet, mais son cœur était vide. C'est alors qu'une nuit, au plus profond de la forêt, le loup captura un lapin. Il s'apprêtait à refermer ses mâchoires sur sa proie quand il entendit une voix. « Relâche-moi, » dit celle-ci. « En échange, je t'aiderai. Je connais ta peine. » Le loup souleva sa patte et le lapin se transforma en un enchanteur au regard doux et à la barbe de feuilles d'automne. « Suis la musique, » dit le magicien. « Elle te mènera jusqu'à l'objet de tes désirs. Mais n'oublie pas que chaque choix porte en lui ses propres conséquences. » Le vent se leva et le magicien disparut dans un tourbillon de feuilles rousses. Aussitôt, une étrange mélopée parvint aux oreilles du loup. Elle était différente des bruits habituels de la forêt. Le sautillement du mulot sur les feuilles, le ululement de la chouette ou le crissement des griffes de l'écureuil sur l'écorce. C'était un chant triste et fragile. Le loup suivit la musique à la recherche de sa source. Il s'enfonça profondément dans la forêt. Plus il avançait, plus les arbres poussaient serrés, plus les ronces semblaient impénétrables. Il quitta son territoire et commença à gravir la montagne. Jamais le loup ne s'était aventuré si loin. Il ralentit son pas, attentif au moindre bruissement, à la plus subtile odeur. Soudain, alors que le loup approchait du sommet, une ombre immense passa sur lui, voilant le soleil. C'était Aquila, l'aigle géante. Si le loup était le prince de la forêt, Aquila était la reine du ciel. Son bec était dur comme la roche, ses serres tranchantes comme des crocs. Le loup se figea. Il attendit toute la nuit en silence. Aux premières lueurs de l'aube, l'ombre passa à nouveau sur lui. Aquila partait à la chasse. Et le loup reprit son ascension. Lorsqu'enfin il atteignit le sommet, il arriva au bord d'un nid gigantesque. Au milieu du nid se trouvait un œuf immense au reflet de lune. Une lanière de cuir entourait sa coquille. Le loup y passa la tête. Aussitôt, la lanière se resserra autour de son cou et l'œuf rétrécit jusqu'à prendre la taille d'un minuscule grelot. Le talisman tintait doucement, comme un écho de la musique qui l'avait guidé jusque-là. Extrait de Léna et le Seigneur des Amanites, de Myriam Daman, Nicolas Digard et Julia Sarda. Loin, très loin à l'ouest, se trouvait une petite ville au bord d'une rivière, à l'orée d'une forêt. « Cette forêt a des yeux et des oreilles », murmuraient ses habitants. « Cette forêt est hantée !» On parlait même de gens qui s'y étaient aventurés et n'étaient jamais revenus. Pourtant, tous les jours, les habitants traversaient la rivière pour y couper autant de bois qu'ils pouvaient emporter. Léna possédait la seule barque de la ville et connaissait la rivière mieux que personne. Mais malgré toute son assurance sur l'eau, elle n'osait pas parler à ses passagers. Et parmi eux, il y avait un jeune homme avec lequel Léna se sentait particulièrement timide. Oren avait des yeux souriants et un esprit curieux. Quand Léna l'emmenait d'une rive à l'autre, il partageait souvent les poignées de noisettes qu'il rapportait dans sa casquette verte. Elle souriait à ses plaisanteries et écoutait ses histoires avec plaisir, mais elle demeurait toujours silencieuse. Un après-midi, Oren ne revint pas de la forêt. Léna guetta longtemps son retour, en vain. Le lendemain, elle retourna le chercher, et le jour suivant, mais il n'y avait toujours aucune trace du jeune homme. La quatrième nuit, un vent glacial se leva, faisant frissonner les arbres et grincer les toits. De la fenêtre de sa maison, Léna aperçut une lanterne qui brillait dans l'ombre de la forêt. Oren était-il de retour ? Elle se précipita dans sa barque. Le courant était traître, les vagues frappaient son embarcation. Lorsque Léna atteignit enfin la rive opposée, elle sursauta en découvrant qui tenait la lanterne. C'était un crapaud. Mais un crapaud comme Léna n'en avait jamais vu.
« Bonsoir !»
coassa le crapaud en prenant place dans la barque de Léna.
« Mon nom est Messire Bombifron, seigneur des Amanites. Je souhaite me rendre en ville. »
Des milliers de questions se bousculèrent dans l'esprit de Léna, mais elle les garda pour elle et traita l'étrange créature comme tous ses autres passagers. Elle navigua à travers la tempête et le conduisit sur la rive opposée. Sans un regard en arrière, le crapaud se glissa dans la ville. Une heure plus tard, il réapparut, son visage poisseux déformé par la peur et la colère.
« Maudite soit cette ville !»
s'exclama-t-il.
« Ils ont hurlé et m'ont jeté des pierres comme si j'étais un monstre. Ramenez-moi dans la forêt !»
Léna s'exécuta sans un mot. À l'orée de la forêt, Messire Bombifron la regarda avec curiosité.
« Merci pour votre gentillesse, mademoiselle. Vous n'êtes pas comme les autres, on dirait. Accepteriez-vous de dîner avec moi ce soir ?»
Léna commençait à bredouiller une excuse quand le crapaud l'interrompit.
« À moins que je ne vous effraie vous aussi, ma chère. »
Léna rougit légèrement. « Oh non, bien sûr, j'en serai ravie, monsieur, » dit-elle. Léna suivit donc Messire Bombifron à travers les arbres immenses qui gardaient le cœur de la forêt. « Je ne resterai pas longtemps, » se disait-elle. Mais au fond d'elle-même, elle était curieuse. Qui était cet étrange personnage ? Et pouvait-il l'aider à retrouver Oren ? Finalement, le crapaud s'arrêta au pied d'un chêne gigantesque. Il plaça sa patte sur le lierre qui tapissait le tronc noueux. Léna retint son souffle lorsque l'écorce s'entrouvrit, révélant un escalier monumental qui s'enfonçait dans les profondeurs de la terre. L'orage éclata enfin et de grosses gouttes de pluie s'abattirent sur eux alors qu'ils se précipitaient à l'intérieur. Ils traversèrent un dédale de tunnels et d'escaliers jusqu'à une salle à manger colossale.
« Venez, très cher, cure,
dit Messire Bombifron.
« Le dîner est servi. »
Dès qu'elle s'assit à l'immense table, apparut un essaim de scarabées dorés, de libellules émeraudes et de papillons écarlates, chacun portant des plats tous plus alléchants les uns que les autres. Une fois le dîner terminé, Messire Bombifron enfila un long imperméable et alluma une torche.
« Je dois m'absenter un moment, » dit-il, « mais la tempête fait rage. Vous devez absolument être mon invité ce soir. »
Il tendit à Léna un trousseau de clés.
« Mon palais compte 19 chambres. Choisissez celle qui vous plaît le plus, mais n'entrez sous aucun prétexte dans la chambre à la porte noire. Je reviendrai dans une heure. »
Il fit une révérence et disparut dans la nuit. Léna se mit à explorer le palais souterrain. Elle ouvrit les portes des premières chambres, toutes plus extraordinaires et magnifiques les unes que les autres. Après la troisième, elle aperçut quelque chose. Une casquette verte posée sur le sol. Elle lui semblait familière. Léna la ramassa et sans réfléchir, la mit dans sa poche. Elle quitta la pièce et suivit le couloir, perdue dans ses pensées. Quand elle passa devant la porte noire, elle entendit un léger grattement. « Ça ne me regarde pas », se dit-elle. Et elle continua à explorer les autres chambres. Mais son esprit revenait sans cesse à la porte noire et ses doigts étaient irrésistiblement attirés par l'unique clé noire du trousseau. Finalement, ne pouvant plus résister, Léna décida d'ouvrir la porte interdite. « Je ne toucherai à rien », se promit-elle. « Je vais juste jeter un coup d'œil. » Elle tourna la clé et la porte s'ouvrit en grinçant. Là, prisonnière, se trouvaient toutes sortes de créatures, des lièvres et des renards, des serpents sifflants et des souris silencieuses. Et toutes avaient les yeux fixés sur Léna. Léna recula en chancelant.
« Attends, s'il te plaît !» dit un écureuil. « Je te connais, tu es la jeune femme à la barque. C'est ma casquette qui dépasse de ta poche !»
Elle s'agenouilla pour mieux l'observer.
« Aurène ? Oui, c'est moi. Messire Bombifron nous a changés en animaux !» dit-il. « Nous sommes ses prisonniers !» piailla un faisan. « Nous ne reverrons jamais nos familles !»
piaula un rat.
Ce podcast vous plaît ? Vous pouvez nous soutenir en nous attribuant des étoiles sur certaines plateformes. Ça permettra à d'autres enfants et parents de nous découvrir. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Les liens sont en description. Vous pouvez suivre notre actualité et nous écrire. On vous attend.
Salut !